Denis Diderot, La religieuse. La réponse de monsieur le marquis de Croixmare, s'il m'en fait une, me fournira les premières lignes de ce récit. Avant que de lui écrire, j'ai voulu le connaître. C'est un homme du monde. Il s'est illustré au service. Il est âgé. Il a été marié. Il a une fille et deux fils qu'il aime et dont il est chéri. Il a de la naissance, des lumières, de l'esprit, de la gaieté, du goût pour les beaux-arts et surtout de l'originalité. On m'a fait l'éloge de sa sensibilité, de son honneur et de sa probité. Et j'ai jugé par le vif intérêt qu'il a pris à mon affaire et par tout ce qu'on m'en a dit que je ne m'étais point compromise en m'adressant à lui. Mais il n'est pas à présumer qu'il se détermine à changer mon sort sans savoir qui je suis, et c'est ce motif qui me résout à vaincre mon amour-propre et ma répugnance en entreprenant ces mémoires, où je peins une partie de mes malheurs, sans talent et sans art, avec la naïveté d'un enfant de mon âge et la franchise de mon caractère. Comme mon protecteur pourrait exiger, ou que peut-être la fantaisie me prendrait de les achever dans un temps où des faits éloignés auraient cessé d'être présents à ma mémoire, j'ai pensé que l'abrégé qui les termine, et la profonde impression qui m'en restera tant que je vivrai, suffirait pour me les rappeler avec exactitude. Mon père était avocat. Il avait épousé ma mère dans un âge assez avancé. Il en eut trois filles. Il avait plus de fortune qu'il n'en fallait pour les établir solidement. Mais pour cela, il fallait au moins que sa tendresse fût également partagée. Et il s'en manque bien que j'en puisse faire cet éloge. Certainement, je valais mieux que mes sœurs par les agréments de l'esprit et de la figure, le caractère et les talents. Et il semblait que mes parents en fussent affligés. Ce que la nature et l'application m'avaient accordé davantage sur elles, devenant pour moi une source de chagrin, afin d'être aimée, chérie, fêtée, excusée, toujours comme elles l'étaient, dès mes plus jeunes ans, j'ai désiré de leur ressembler. S'il arrivait qu'on dit à ma mère « Vous avez des enfants charmants !» Jamais cela ne s'entendait de moi. J'étais quelquefois bien vengée de cette injustice, mais les louanges que j'avais reçues me coûtaient si cher quand nous étions seuls que j'aurais autant aimé de l'indifférence ou même des injures. Plus les étrangers m'avaient marqué de prédilection, plus on avait d'humeur lorsqu'ils étaient sortis. Oh, combien j'ai pleuré de fois de n'être pas née laide, bête, sotte, orgueilleuse. En un mot, avec tous les travers qui leur réussissaient auprès de nos parents. Je me suis demandé d'où venait cette bizarrerie. Dans un père, une mère d'ailleurs honnête, justes et pieux. Vous l'avouerai-je, monsieur? Quelques discours échappés à mon père dans sa colère, car il était violent. Quelques circonstances rassemblées à différents intervalles, des mots de voisins, des propos de valet, m'en ont fait soupçonner une raison qui les excuserait un peu. Peut-être mon père avait-il quelque incertitude sur ma naissance. Peut-être rappelais-je à ma mère une faute qu'elle avait commise et l'ingratitude d'un homme qu'elle avait trop écouté. Que sais-je? Mais quand ces soupçons seraient mal fondés, que risquerais-je à vous les confier? Vous brûlerez cet écrit, et je vous promets de brûler vos réponses. Comme nous étions venues au monde à peu de distance les unes des autres, nous devînmes grandes, toutes les trois ensemble. Il se présenta des parties. Ma sœur aînée fut recherchée par un jeune homme charmant. Bientôt je m'aperçus qu'il me distinguait, et je devinai qu'elle ne serait incessamment que le prétexte de ses assiduités. Je pressentis tout ce que cette préférence pouvait m'attirer de chagrin, et j'en avertis ma mère. C'est peut-être la seule chose que j'ai faite en ma vie qui lui ait été agréable. Et voici comment j'en fus récompensée. 4 jours après, ou du moins à peu de jours, on me dit qu'on avait arrêté ma place dans un couvent, et dès le lendemain, j'y fus conduite. J'étais si mal à la maison que cet événement ne m'affligea point. Et j'allais à Sainte-Marie, c'est mon premier couvent, avec beaucoup de gaieté. Cependant, l'amant de ma sœur ne me voyant plus, m'oublia et devint son époux. Il s'appelle Monsieur K. Il est notaire et demeure à Corbeil, où il fait un assez mauvais ménage. Ma seconde sœur fut mariée à un Monsieur Beauchon, marchand de soierie à Paris, rue Quincampoix, et vit assez bien avec lui. Mes 2 sœurs établies, je crus qu'on penserait à moi et que je ne tarderais pas à sortir du couvent. J'avais alors 16 ans et demi. On avait fait des dots considérables à mes sœurs. Je me promettais un sort égal au leur, et ma tête s'était remplie de projets séduisants. Lorsqu'on me fit demander au parloir, c'était le père Séraphin, directeur de ma mère. Il avait été aussi le mien. Ainsi, il n'eut pas d'embarras à m'expliquer le motif de sa visite. Il s'agissait de m'engager à prendre l'habit. Je me récriai sur cette étrange proposition et je lui déclarai nettement que je ne me sentais aucun goût pour l'état religieux. « Tant pis, me dit-il, car vos parents se sont dépouillés pour vos sœurs et je ne vois plus ce qu'ils pourraient pour vous dans la situation étroite où ils se sont réduits. Réfléchissez-y, mademoiselle. Il faut ou entrer pour toujours dans cette maison ou s'en aller dans quelque couvent de province où l'on vous recevra pour une modique pension et d'où vous ne sortirez qu'à la mort de vos parents, qui peut se faire attendre encore longtemps. » Je me plaignis avec amertume et je versai un torrent de larmes. La supérieure était prévenue. Elle m'attendait au retour du parloir. J'étais dans un désordre qui ne se peut expliquer. Elle me dit « Et qu'avez-vous, ma chère enfant ?» Elle savait mieux que moi ce que j'avais. « Comme vous voilà ! Mais on n'a jamais vu un désespoir pareil au vôtre. Vous me faites trembler. Est-ce que vous avez perdu monsieur votre père ou madame votre mère ?» Je pensais lui répondre en me jetant entre ses bras. « Eh, plût à Dieu !» Je me contentais de m'écrier « Hélas, je n'ai ni père ni mère. Je suis une malheureuse qu'on déteste et qu'on veut enterrer ici toute vive. » Elle laissa passer le torrent. Elle attendit le moment de la tranquillité. Je lui expliquai plus clairement ce qu'on venait de m'annoncer. Elle parut avoir pitié de moi. Elle me plaignit. Elle m'encouragea à ne point embrasser un état pour lequel je n'avais aucun goût. Elle me promit de prier, de remontrer, de solliciter. Oh, monsieur, combien ces supérieures de couvent sont artificieuses, vous n'en avez point d'idée. Elle écrivit en effet. Elle n'ignorait pas les réponses qu'on lui ferait. Elle me les communiqua. Et ce n'est qu'après bien du temps que j'ai appris à douter de sa bonne foi. Cependant, le terme qu'on avait mis à ma résolution arriva. Elle vint m'en instruire avec la tristesse la mieux étudiée. D'abord, elle demeura sans parler. Ensuite, elle me jeta quelques mots de commisération, d'après lesquels je compris le reste. Ce fut encore une scène de désespoir. Je n'en aurai guère d'autre à vous peindre. Savoir se contenir est leur grand art. Ensuite, elle me dit, en vérité, je crois que ce fut en pleurant, « Eh bien, mon enfant, vous allez donc nous quitter. Cher enfant, nous ne nous reverrons plus. » Et d'autres propos que je n'entendis pas. J'étais renversée sur une chaise, où je gardais le silence, où je sanglotais, où j'étais immobile, où je me levais, où j'allais tantôt m'appuyer contre les murs, tantôt exhaler ma douleur sur son sein. Voilà ce qui s'était passé lorsqu'elle ajouta. « Mais que ne faites-vous une chose ? Écoutez, et n'allez pas dire au moins que je vous en ai donné le conseil. Je compte sur une discrétion inviolable de votre part. Car, pour toute chose au monde, je ne voudrais pas qu'on eût un reproche à me faire. Qu'est-ce qu'on demande de vous? Que vous preniez le voile? Eh bien, que ne le prenez-vous? À quoi cela vous engage-t-il? À rien, à demeurer encore 2 ans avec nous. On ne sait ni qui meurt ni qui vit. 2 ans, c'est du temps, il peut arriver bien des choses en 2 ans. Elle joignit à ses propos insidieux tant de caresses, tant de protestations d'amitié, tant de fausseté douce. Je savais où j'étais, je ne savais pas où l'on me mènerait. Et je me laissai persuader. Elle écrivit donc à mon père. Sa lettre était très bien. Oh, pour cela on ne peut mieux. Ma peine, ma douleur, mes réclamations n'y étaient point dissimulées. Je vous assure qu'une fille plus fine que moi y aurait été trompée. Cependant, on finissait par donner mon consentement. Avec quelle célérité tout fut préparé! Le jour fut pris, mes habits faits, le moment de la cérémonie arrivé, sans que j'aperçoive aujourd'hui le moindre intervalle entre ces choses. J'oubliais de vous dire que je vis mon père et ma mère, que je n'épargnais rien pour les toucher, et que je les trouvais inflexibles. Ce fut un monsieur l'abbé Blain, docteur de Sorbonne, qui m'exhorta, et monsieur l'évêque d'Alep qui me donna l'habit. Cette cérémonie n'est pas gaie par elle-même. Ce jour-là, elle fut des plus tristes. Quoique les religieuses s'empressassent autour de moi pour me soutenir, 20 fois je sentis mes genoux se dérober, et je me vis prête à tomber sur les marches de l'autel. Je n'entendais rien, je ne voyais rien. J'étais stupide. On me menait et j'allais. On m'interrogeait et l'on répondait pour moi. Cependant, cette cruelle cérémonie prit fin. Tout le monde se retira, et je restai au milieu du troupeau auquel on venait de m'associer. Mes compagnes m'ont entourée, elles m'embrassent et se disent « Mais voyez donc, ma sœur, comme elle est belle! Comme ce voile noir relève la blancheur de son teint! Comme ce bandeau d'huissier! Comme il lui arrondit le visage! Comme il étend ses joues! Comme cet habit fait valoir sa taille et ses bras !» Je les écoutais à peine. J'étais désolée. Cependant, il faut que j'en convienne. Quand je fus seule dans ma cellule, je me ressouvins de leur flatterie. Je ne pus m'empêcher de les vérifier à mon petit miroir. Et il me sembla qu'elles n'étaient pas tout à fait déplacées. Il y a des honneurs attachés à ce jour. On les exagéra pour moi, mais j'y fus peu sensible. Et l'on affecta de croire le contraire et de me le dire, quoiqu'il fût clair qu'il n'en était rien. Le soir, au sortir de la prière, la supérieure se rendit dans ma cellule. « En vérité, me dit-elle après m'avoir un peu considérée, je ne sais pourquoi vous avez tant de répugnance pour cet habit. Il vous fait à merveille et vous êtes charmante. » Sœur Suzanne est une très belle religieuse, on vous en aimera davantage. Ça, voyons un peu, marchez. Vous ne vous tenez pas assez droite, il ne faut pas être courbée comme cela. Elle me composa la tête, les pieds, les mains, la taille, les bras. Ce fut presque une leçon de Marcel sur les grâces monastiques, car chaque état a les siennes. Ensuite, elle s'assit et me dit « C'est bien. Mais à présent, parlons un peu sérieusement. Voilà donc 2 ans de gagnés. Vos parents peuvent changer de résolution. Vous-même, vous voudrez peut-être rester ici quand ils voudront vous en tirer. Cela ne serait point du tout impossible. Madame, ne le croyez pas. Vous avez été longtemps parmi nous, mais vous ne connaissez pas encore notre vie. Elle a ses peines, sans doute, mais elle a aussi ses douceurs. » Vous vous doutez bien de tout ce qu'elle put ajouter du monde et du cloître. Cela est écrit partout, et partout de la même manière. Car grâce à Dieu, On m'a fait lire de nombreux fatras de ce que les religieux ont débité de leur état, qu'ils connaissent bien et qu'ils détestent, contre le monde qu'ils aiment, qu'ils déchirent et qu'ils ne connaissent pas. Je ne vous ferai pas le détail de mon noviciat. Si l'on observait toute son austérité, on n'y résisterait pas. Mais c'est le temps le plus doux de la vie monastique. Une mère des novices est la sœur la plus indulgente qu'on a pu trouver. Son étude est de vous dérober toutes les épines de l'état. C'est un cours de séduction la plus subtile et la mieux apprêtée. C'est elle qui épaissit les ténèbres qui vous environnent, qui vous berce, qui vous endort, qui vous en impose, qui vous fascine. La nôtre s'attacha à moi particulièrement. Je ne pense pas qu'il y ait aucune âme, jeune et sans expérience, à l'épreuve de cet art funeste. Le monde a ses précipices, mais je n'imagine pas qu'on y arrive par une pente aussi facile. Si j'avais éternué deux fois de suite, j'étais dispensé de l'office, du travail, de la prière. Je me couchais de meilleure heure, je me levais plus tard. La règle cessait pour moi. Imaginez, monsieur, qu'il y avait des jours où je soupirais après l'instant de me sacrifier. Il ne se passe pas une histoire fâcheuse dans le monde qu'on ne vous en parle. On arrange les vrais, on en fait de fausses, et puis ce sont des louanges sans fin et des actions de grâce à Dieu qui nous mettent à couvert de ces humiliantes aventures. Cependant, il approchait ce temps que j'avais quelquefois hâté par mes désirs. Alors je devins rêveuse. Je sentis mes répugnances se réveiller et s'accroître. Je les allai confier à la supérieure ou à notre mère des novices. Ces femmes se vengent bien de l'ennui que vous leur portez, car il ne faut pas croire qu'elles s'amusent du rôle hypocrite qu'elles jouent et des sottises qu'elles sont forcées de vous répéter. Cela devient à la fin si usé et si maussade pour elles, mais elles s'y déterminent, et cela pour un millier d'écus qu'il en revient à leur maison. Voilà l'objet important pour lequel elles mentent toute leur vie et préparent à de jeunes innocentes un désespoir de 40, de 50 années et peut-être un malheur éternel. Car il est sûr, monsieur, que sur 100 religieuses qui meurent avant 50 ans, il y en a 100 tout juste de damnées, sans compter celles qui deviennent folles, stupides ou furieuses en attendant. Il arriva un jour qu'il s'en échappa une de ces dernières de la cellule où on la tenait renfermée. Je la vis. Voilà l'époque de mon bonheur ou de mon malheur, selon, monsieur, la manière dont vous en userez avec moi. Je n'ai jamais rien vu de si hideux. Elle était échevelée et presque sans vêtements. Elle traînait des chaînes de fer. Ses yeux étaient égarés. Elle s'arrachait les cheveux. Elle se frappait la poitrine avec les poings. Elle courait. Elle hurlait. Elle se chargeait elle-même et les autres des plus terribles imprécations. Elle cherchait une fenêtre pour se précipiter. La frayeur me saisit. Je tremblais de tous mes membres. Je vis mon sort dans celui de cette infortunée. Et sur le champ, il fut décidé, dans mon cœur, que je mourrais mille fois plutôt que de m'y exposer. On pressentit l'effet que cet événement pourrait faire sur mon esprit. On crut devoir le prévenir. On me dit de cette religieuse je ne sais combien de mensonges ridicules qui se contredisaient, qu'elle avait déjà l'esprit dérangé quand on l'avait reçue, qu'elle avait eu un grand effroi dans un temps critique, qu'elle était devenue sujette à des visions, qu'elle se croyait en commerce avec les anges, qu'elle avait fait des lectures pernicieuses qui lui avaient gâté l'esprit, qu'elle avait entendu des novateurs d'une morale outrée qui l'avaient si fort épouvantée des jugements de Dieu que sa tête ébranlée en avait été renversée, qu'elle ne voyait plus que des démons, l'enfer et des gouffres de feu, qu'elles étaient bien malheureuses, qu'il était inouï qu'il y eût jamais eu un pareil sujet dans la maison. Que sais-je, quoi encore? Cela ne prit point auprès de moi. À tout moment, ma religieuse folle me revenait à l'esprit, et je me renouvelais le serment de ne faire aucun vœu. Le voici pourtant arrivé ce moment où il s'agissait de montrer si je savais me tenir parole. Un matin, après l'office, je vis entrer la supérieure chez moi. Elle tenait une lettre. Son visage était celui de la tristesse et de l'abattement. Les bras lui tombaient. Il semblait que sa main n'eût pas la force de soulever cette lettre. Elle me regardait. Des larmes semblaient rouler dans ses yeux. Elle se taisait, et moi aussi. Elle attendait que je parlasse la première. J'en fus tentée, mais je me retins. Elle me demanda comment je me portais, que l'office avait été bien long aujourd'hui, que j'avais un peu toussé, que je lui paraissais indisposée. À tout cela, je répondis « Non, ma chère mère. » Elle tenait toujours sa lettre d'une main pendante. Au milieu de ses questions, elle la posa sur ses genoux et sa main la cachait en partie. Enfin, après avoir tourné autour de quelques questions sur mon père, sur ma mère, voyant que je ne lui demandais point ce que c'était que ce papier, elle me dit « Voilà une lettre !» À ce mot, je sentis mon cœur se troubler, et j'ajoutai d'une voix entrecoupée et avec des lèvres tremblantes « Elle est de ma mère ?»« Vous l'avez dit, tenez, lisez !» Je me remis un peu. Je pris la lettre. Je la lus d'abord avec assez de fermeté. Mais à mesure que j'avançais, la frayeur, l'indignation, la colère, le dépit, différentes passions se succédant en moi, j'avais différentes voix. Je prenais différents visages et je faisais différents mouvements. Quelquefois, je tenais à peine ce papier, ou je le tenais comme si j'eusse voulu le déchirer, où je le serrais violemment, comme si j'avais été tentée de le froisser et de le jeter loin de moi. « Eh bien, mon enfant, que répondrons-nous à cela ?»« Madame, vous le savez. »« Mais non, je ne le sais pas. Les temps sont malheureux, votre famille a souffert des pertes. Les affaires de vos sœurs sont dérangées, elles ont l'une et l'autre beaucoup d'enfants, on s'est épuisé pour elles en les mariant. On se ruine pour les soutenir. » Il est impossible qu'on vous fasse un certain sort. Vous avez pris l'habit, on s'est constitué en dépenses. Par cette démarche, vous avez donné des espérances. Le bruit de votre profession prochaine s'est répandu dans le monde. Au reste, comptez toujours sur tous mes secours. Je n'ai jamais attiré personne en religion. C'est un état où Dieu nous appelle, et il est très dangereux de mêler sa voix à la sienne. Je n'entreprendrai point de parler à votre cœur, si la grâce ne lui dit rien. Jusqu'à présent, je n'ai point à me reprocher le malheur d'une autre. Voudrais-je commencer par vous, mon enfant, qui m'êtes si cher? Je n'ai point oublié que c'est à ma persuasion que vous avez fait les premières démarches. Et je ne souffrirai point qu'on en abuse pour vous engager au-delà de votre volonté. Voyons donc ensemble, concertons-nous. Voulez-vous faire profession? « Non, madame. Vous ne vous sentez aucun goût pour l'état religieux. »« Non, madame. Vous n'obéirez point à vos parents. »« Non, madame. Que voulez-vous donc devenir ?»« Tout, excepté religieuse. Je ne le veux pas être, je ne le serai pas. »« Eh bien, vous ne le serez pas. Voyons, arrangeons une réponse à votre mère. » Nous convînmes de quelques idées. Elle écrivit et me montra sa lettre qui me parut encore très bien. Cependant, on me dépêcha le directeur de la maison. On m'envoya le docteur qui m'avait prêché à ma prise d'habit. On me recommanda à la mère des novices. Je vis monsieur l'évêque d'Alep. J'eus des lances à rompre avec des femmes pieuses qui se mêlèrent de mon affaire sans que je les connusse. C'était des conférences continuelles avec des moines et des prêtres. Mon père vint. Mes sœurs m'écrivirent. Ma mère parut la dernière. Je résistai à tout. Cependant, le jour fut pris pour ma profession. on ne négligea rien pour obtenir mon consentement. Mais quand on vit qu'il était inutile de le solliciter, on prit le parti de s'en passer. De ce moment, je fus renfermée dans ma cellule. On m'imposa le silence. Je fus séparée de tout le monde, abandonnée à moi-même. Et je vis clairement qu'on était résolu à disposer de moi sans moi. Je ne voulais point m'engager. C'était un point décidé. Et toutes les terreurs, vraies ou fausses, qu'on me jetait sans cesse, ne m'ébranlaient pas. Cependant, j'étais dans un état déplorable. Je ne savais point ce qu'il pouvait durer. Et s'il venait à cesser, je savais encore moins ce qui pouvait m'arriver. Au milieu de ces incertitudes, je pris un parti dont vous jugerez, monsieur, comme il vous plaira. Je ne voyais plus personne, ni la supérieure, ni la mère des novices, ni mes compagnes. Je fis avertir la première et je feignis de me rapprocher de la volonté de mes parents. Mais mon dessein était de finir cette persécution avec éclat et de protester publiquement contre la violence qu'on méditait. Je dis donc qu'on était maître de mon sort, qu'on en pouvait disposer comme on voudrait, qu'on exigeait que je fisse profession et que je la ferais. Voilà la joie répandue dans toute la maison, les caresses revenues avec toutes les flatteries et toute la séduction. Dieu avait parlé à mon cœur, personne n'était plus faite pour l'état de perfection que moi. Il était impossible que cela ne fût pas, on s'y était toujours attendu. On ne remplit pas ses devoirs avec tant d'édification et de constance quand on n'y est pas vraiment destiné. La mère des novices n'avait jamais vu dans aucune de ses élèves de vocation mieux caractérisée. Elle était toute surprise du travers que j'avais pris, mais elle avait toujours bien dit à notre mère supérieure qu'il fallait tenir bon et que cela passerait, que les meilleures religieuses avaient eu de ces moments-là, que c'était des suggestions du mauvais esprit qui redoublait ses efforts lorsqu'il était sur le point de perdre sa proie, que j'allais lui échapper, qu'il n'y avait plus que des roses pour moi, que les obligations de la vie religieuse me paraîtraient d'autant plus supportables que je me les étais fortement exagérées, que cet apesantissement subi du joug était une grâce du ciel qui se servait de ce moyen pour l'alléger. Il me paraissait assez singulier que la même chose vînt de Dieu ou du diable, selon qu'il leur plaisait de l'envisager. Il y a beaucoup de circonstances pareilles dans la religion, et ceux qui m'ont consolé m'ont souvent dit de mes pensées, les uns que c'était autant d'instigations de Satan, et les autres autant d'inspirations de Dieu. Le même mal vient ou de Dieu qui nous éprouve, ou du diable qui nous tente. Je me conduisis avec discrétion. Je crus pouvoir répondre de moi. Je vis mon père, il me parla froidement. Je vis ma mère, elle m'embrassa. Je reçus des lettres de congratulation de mes sœurs et de beaucoup d'autres. Je sus que ce serait un monsieur Sornin, vicaire de Saint-Roch, qui ferait le sermon, et monsieur Thierry, chancelier de l'université, qui recevrait mes vœux. Tout alla bien jusqu'à la veille du grand jour. Excepté qu'ayant appris que la cérémonie serait clandestine, qu'il y aurait très peu de monde et que la porte de l'église ne serait ouverte qu'aux parents, j'appelai par la tourière toutes les personnes de notre voisinage, mes amis. J'eus la permission d'écrire à quelques-unes de mes connaissances. Tout ce concours auquel on ne s'attendait guère se présenta. Il fallut le laisser entrer. Et l'assemblée fut telle à peu près qu'il le fallait pour mon projet. Oh, monsieur, quelle nuit que celle qui précéda! Je ne me couchai point. J'étais assise sur mon lit. J'appelais Dieu à mon secours. J'ai levé mes mains au ciel. Je le prenais à témoin de la violence qu'on me faisait. Je me représentais mon rôle au pied des autels. Une jeune fille protestant à haute voix contre une action à laquelle elle paraît avoir consenti. Le scandale des assistants, le désespoir des religieuses, la fureur de mes parents. Ô Dieu, que vais-je devenir ? En prononçant ces mots, il me prit une défaillance générale. Je tombai évanoui sur mon traversin. Un frisson dans lequel mes genoux se battaient et mes dents se frappaient avec bruit succéda à cette défaillance. À ce frisson, une chaleur terrible. Mon esprit se troubla. Je ne me souviens ni de m'être déshabillé, ni d'être sorti de ma cellule. Cependant, on me trouva nu, en chemise, étendu par terre à la porte de la supérieure, sans mouvement et presque sans vie. J'ai appris ces choses depuis. Le matin, je me trouvais dans ma cellule, mon lit environné de la supérieure, de la mère des novices et de celles qu'on appelle les assistantes. J'étais fort abattu. On me fit quelques questions. On vit par mes réponses que je n'avais aucune connaissance de ce qui s'était passé, et l'on ne m'en parla pas. On me demanda comment je me portais, si je persistais dans ma sainte résolution, et si je me sentais capable de supporter la fatigue du jour. Je répondis que oui, et contre leur attente, rien ne fut dérangé. On avait tout disposé dès la veille. On sonna les cloches pour apprendre à tout le monde qu'on allait faire une malheureuse. Le cœur me battit encore. On vint me parer. Ce jour est un jour de toilette. À présent que je me rappelle toutes ces cérémonies, il me semble qu'elles avaient quelque chose de solennel et de bien touchant pour une jeune innocente que son penchant n'entraînerait point ailleurs. On me conduisit à l'église. On célébra la sainte messe. Le bon vicaire, qui me soupçonnait une résignation que je n'avais point, me fit un long sermon où il n'y avait pas un mot qui ne fût à contresens. C'était quelque chose de bien ridicule que tout ce qu'il me disait de mon bonheur, de la grâce, de mon courage, de mon zèle, de ma ferveur et de tous les beaux sentiments qu'il me supposait. Ce contraste, et de son éloge et de la démarche que j'allais faire, me troubla. J'eus des moments d'incertitude, mais qui durèrent peu. Je n'en sentis que mieux que je manquais de tout ce qu'il fallait avoir pour être une bonne religieuse. Enfin, le moment terrible arriva. Lorsqu'il fallut entrer dans le lieu où je devais prononcer le vœu de mon engagement, je ne me trouvais plus de jambes. Deux de mes compagnes me prirent sous les bras. J'avais la tête renversée sur une d'elles, et je me traînais. Je ne sais ce qui se passait dans l'âme des assistants, mais ils voyaient une jeune victime mourante qu'on portait à l'autel, et il s'échappait de toutes parts des soupirs et des sanglots, au milieu desquels je suis bien sûr que ceux de mon père et de ma mère ne se firent point entendre. Tout le monde était debout. Il y avait de jeunes personnes montées sur des chaises et attachées aux barreaux de la grille, et il se faisait un profond silence lorsque celui qui présidait à ma profession me dit « Marie, Suzanne, Simonin, promettez-vous de dire la vérité ?»« Je le promets. » »« Est-ce de votre plein gré et de votre libre volonté que vous êtes ici ?» Je répondis « Non. » Mais celles qui m'accompagnaient répondirent pour moi « Oui. » « Marie, Suzanne, Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance ?» J'hésitai un moment, le prêtre attendit et je répondis « Non, monsieur. » Il recommença « Marie, Suzanne, Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance ?» Je lui répondis d'une voix plus ferme « Non, monsieur, non. » Il s'arrêta et me dit « Mon enfant, remettez-vous et écoutez-moi. »« Monsieur, lui dis-je, vous me demandez si je promets à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance. Je vous ai bien entendu et je vous réponds que non. » Et me tournant ensuite vers les assistants, entre lesquels il s'était élevé un assez grand murmure, je fis signe que je voulais parler. Le murmure cessa et je dis « Messieurs, et vous surtout, mon père et ma mère, je vous prends tous à témoin. » À ces mots, une des sœurs laissa tomber le voile de la grille et je vis qu'il était inutile de continuer. Les religieuses m'entourèrent, m'accablèrent de reproches. Je les écoutais sans mot dire. On me conduisit dans ma cellule où l'on m'enferma sous la clé. Là, seul, livré à mes réflexions, je commençais à rassurer mon âme. Je revins sur ma démarche et je ne m'en repentis point. Je vis qu'après l'éclat que j'avais fait, il était impossible que je restasse ici longtemps et que peut-être on n'oserait pas me remettre en couvent. Je ne savais ce qu'on ferait de moi, mais je ne voyais rien de pis que d'être religieuse malgré soi. Je demeurai assez longtemps sans entendre parler de qui que ce fût. Celle qui m'apportait à manger entrait, mettait mon dîner à terre et s'en allait en silence. Au bout d'un mois, on m'apporta des habits de séculière. Je quittai ceux de la maison. La supérieure vint et me dit de la suivre. Je la suivis jusqu'à la porte conventuelle. Là, je montai dans une voiture où je trouvai ma mère seule qui m'attendait. Je m'assis sur le devant et le carrosse partit. Nous restâmes l'une vis-à-vis de l'autre quelque temps sans mot dire. J'avais les yeux baissés et je n'osais la regarder. Je ne sais ce qui se passait dans mon âme, mais tout à coup je me jetai à ses pieds et je penchai ma tête sur ses genoux. Je ne lui parlais pas, mais je sanglotais et j'étouffais. Elle me repoussa durement. Je ne me relevai pas. Le sang me vint au nez. Je saisis une de ses mains malgré qu'elle en eût, et l'arrosant de mes larmes et de mon sang qui coulait, appuyant ma bouche sur cette main, je la baisais et je lui disais « Vous êtes toujours ma mère, je suis toujours votre enfant. » Et elle me répondit, en me poussant encore plus rudement et en arrachant sa main d'entre les miennes, « Relevez-vous, malheureuse, relevez-vous. » Je lui obéis, je me rassis et je tirai ma coiffe sur mon visage. Elle avait mis tant d'autorité et de fermeté dans le son de sa voix que je crus devoir me dérober à ses yeux. Mes larmes et le sang qui coulait de mon nez se mêlaient ensemble, descendaient le long de mes bras, et j'en étais toute couverte sans que je m'en aperçusse. À quelques mots qu'elle dit, je conçus que sa robe et son linge en avaient été tachés et que cela lui déplaisait. Nous arrivâmes à la maison. Et l'on me conduisit tout de suite à une petite chambre qu'on m'avait préparée. Je me jetai encore à ses genoux sur l'escalier. Je la retins par son vêtement. Mais tout ce que j'en obtins, ce fut de se retourner de mon côté et de me regarder avec un mouvement d'indignation de la tête, de la bouche et des yeux que vous concevez mieux que je ne puis vous le rendre. J'entrai dans ma nouvelle prison, où je passai 6 mois. Sollicitant tous les jours inutilement la grâce de lui parler, de voir mon père ou de leur écrire. On m'apportait à manger, on me servait. Une domestique m'accompagnait à la messe les jours de fête et me renfermait. Je lisais, je travaillais, je pleurais, je chantais quelquefois. Et c'est ainsi que mes journées se passaient. Un sentiment secret me soutenait, c'est que j'étais libre et que mon sort, quelque dur qu'il fût, pouvait changer. Mais il était décidé que je serais religieuse, et je le fus. Tant d'inhumanité, tant d'opiniâtreté de la part de mes parents ont achevé de me confirmer ce que je soupçonnais depuis ma naissance. Je n'ai jamais pu trouver d'autre moyen de les excuser. Ma mère craignait apparemment que je revinsse un jour sur le partage des biens, que je ne redemandasse ma légitime et que je n'associasse un enfant naturel à des enfants légitimes. Mais ce qui n'était qu'une conjecture va se tourner en certitude. Tandis que j'étais enfermée à la maison, je faisais peu d'exercices extérieurs de religion. Cependant, on m'envoyait à confesse la veille des grandes fêtes. Je vous ai dit que j'avais le même directeur que ma mère. Je lui parlais. Je lui exposais toute la dureté de la conduite qu'on avait tenue avec moi depuis environ 3 ans. Il la savait. Je me plaignais de ma mère, surtout avec amertume et ressentiment. Ce prêtre était entré tard dans l'état religieux. Il avait de l'humanité. Il m'écouta tranquillement et me dit « Mon enfant, plaignez votre mère, plaignez-la plus encore que vous ne la blâmez. Elle a l'âme bonne. Soyez sûr que c'est malgré elle qu'elle en use ainsi. » Malgré elle, monsieur ? Mais qu'est-ce qui peut l'y contraindre ? Ne m'a-t-elle pas mise au monde ? Et quelle différence y a-t-il entre mes sœurs et moi ?
Beaucoup.
Beaucoup ? Je n'entends rien à votre réponse. J'allais entrer dans la comparaison de mes sœurs et de moi lorsqu'il m'arrêta et me dit « Allez, allez, l'inhumanité n'est pas le vice de vos parents. Tâchez de prendre votre sort en patience et de vous en faire du moins un mérite devant Dieu. Je verrai votre mère, et soyez sûr que j'emploierai pour vous servir tout ce que je puis avoir d'ascendant sur son esprit. » Ce « beaucoup » qu'il m'avait répondu fut un trait de lumière pour moi. Je ne doutais plus de la vérité de ce que j'avais pensé sur ma naissance. Le samedi suivant, vers les 5h30 du soir, à la chute du jour, la servante qui m'était attachée monta et me dit « Madame, votre mère ordonne que vous vous habilliez. » Une heure après, « Madame veut que vous descendiez avec moi. » Je trouvai à la porte un carrosse où nous montâmes, la domestique et moi, et j'appris que nous allions au Feuillant chez le père Séraphin. Il nous attendait. Il était seul. La domestique s'éloigna, et moi, j'entrai dans le parloir. Je m'assis, inquiète et curieuse de ce qu'il avait à me dire. Voici comment il me parla. « Mademoiselle, l'énigme de la conduite sévère de vos parents va s'expliquer pour vous. J'en ai obtenu la permission de madame votre mère. Vous êtes sage, vous avez de l'esprit, de la fermeté, vous êtes dans un âge où l'on pourrait vous confier un secret, même qui ne vous concernerait point. Il y a longtemps que j'ai exhorté pour la première fois madame votre mère à vous révéler celui que vous allez apprendre. Elle n'a jamais pu s'y résoudre. Il est dur pour une mère d'avouer une faute grave à son enfant. Vous connaissez son caractère, il ne va guère avec la sorte d'humiliation d'un certain aveu. Elle a cru pouvoir, sans cette ressource, vous amener à ses desseins. Elle s'est trompée, elle en est fâchée. Elle revient aujourd'hui à mon conseil, et c'est elle qui m'a chargé de vous annoncer que vous n'étiez pas la fille de M. Simonin. » Je lui répondis sur le champ, « Je m'en étais doutée. » Voyez à présent, mademoiselle, considérez, pesez, jugez si madame votre mère peut, sans le consentement, même avec le consentement de monsieur votre père, vous unir à des enfants dont vous n'êtes point la sœur. Si elle peut avouer à monsieur votre père un fait sur lequel il n'a déjà que trop de soupçons. Mais, monsieur, qui est mon père ? Mademoiselle, c'est ce qu'on ne m'a pas confié. Il n'est que trop certain, mademoiselle, qu'on a prodigieusement avantagé vos sœurs et qu'on a pris toutes les précautions imaginables par les contrats de mariage, par le dénaturé des biens, par les stipulations, par les fidéicommis et autres moyens de réduire à rien votre légitime, dans le cas que vous puissiez un jour vous adresser aux lois pour la redemander. Si vous perdez vos parents, vous trouverez peu de choses. Vous refusez un couvent, peut-être regretterez-vous de n'y pas être. Cela ne se peut, monsieur, je ne demande rien. Vous ne savez pas ce que c'est que la peine, le travail, l'indigence. Je connais du moins le prix de la liberté et le poids d'un état auquel on n'est point appelé. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. C'est à vous, mademoiselle, à faire vos réflexions. » Ensuite, il se leva. « Mais, monsieur, encore une question. » « Tant qu'il vous plaira. » « Mes sœurs, savent-elles ce que vous m'avez appris ?»«
Non, mademoiselle. »
« Comment ont-elles donc pu se résoudre à dépouiller leurs sœurs, car c'est ce qu'elles me croient ?»«
Ah, mademoiselle, l'intérêt. Elles n'auraient point obtenu les parties considérables qu'elles ont trouvées.
Chacun songe à soi dans ce monde, et je ne vous conseille pas de compter sur elles si vous venez à perdre vos parents.
Soyez sûr qu'on vous disputera jusqu'à une obole la petite portion que vous aurez à partager avec elles. Elles ont beaucoup d'enfants. Ce prétexte sera trop honnête pour vous réduire à la mendicité. Et puis, elles ne peuvent plus rien. Ce sont les maris qui font tout. Si elles avaient quelques sentiments de commisération, les secours qu'elles vous donneraient, à l'insu de leur mari, deviendraient une source de division domestique. Je ne vois que de ces choses-là, ou des enfants abandonnés, ou des enfants même légitimes, secourus aux dépens de la paix domestique. Et puis, mademoiselle, le pain qu'on reçoit est bien dur. Si vous m'en croyez, vous vous réconcilierez avec vos parents. Vous ferez ce que votre mère doit attendre de vous. Vous entrerez en religion. On vous fera une petite pension avec laquelle vous passerez des jours, sinon heureux, du moins supportables. Au reste, je ne vous scellerai pas que l'abandon apparent de votre mère, son opiniâtreté à vous enfermer, et quelques autres circonstances qui ne me reviennent plus, mais que j'ai su dans le temps, ont produit exactement sur votre père le même effet que sur vous. Votre naissance lui était suspecte, elle ne lui est plus. Et sans être dans la confidence, il ne doute point que vous ne lui apparteniez comme enfant que par la loi qui les attribue à celui qui porte le titre d'époux. Allez, mademoiselle, vous êtes bonne et sage. Pensez à ce que vous venez d'apprendre. Je me levai. Je me mis à pleurer. Je vis qu'il était lui-même attendri. Il leva doucement les yeux au ciel et me reconduisit. Je repris la domestique qui m'avait accompagnée. Nous remontâmes en voiture et nous rentrâmes à la maison. Il était tard. Je rêvai une partie de la nuit à ce qu'on venait de me révéler. J'y rêvais encore le lendemain. Je n'avais point de père. Le scrupule m'avait ôté ma mère. Des précautions prises pour que je ne pusse prétendre au droit de ma naissance légale. Une captivité domestique fort dure. Nulle espérance. Nulle ressource. Peut-être que, si l'on se fût expliqué plus tôt avec moi, après l'établissement de mes sœurs, on m'eût gardé à la maison qui ne laissait pas que d'être fréquentée, il se serait trouvé quelqu'un à qui mon caractère, mon esprit, ma figure et mes talents auraient paru une dot suffisante. La chose n'était pas encore impossible. Mais l'éclat que j'avais fait au couvent la rendait plus difficile. On ne conçoit guère comment une fille de 17 à 18 ans a pu se porter à cette extrémité sans une fermeté plus commune. Les hommes louent beaucoup cette qualité, mais il me semble qu'ils s'en passent volontiers dans celle dont ils se proposent de faire leur épouse. C'était pourtant une ressource à tenter avant que de songer à un autre parti. Je pris celui de m'en ouvrir à ma mère et je lui fis demander un entretien qui me fut accordé. C'était dans l'hiver. Elle était assise dans un fauteuil devant le feu. Elle avait le visage sévère, le regard fixe et les traits immobiles. Je m'approchai d'elle, je me jetai à ses pieds et je lui demandai pardon de tous les torts que j'avais. « C'est, me répondit-elle, parce que vous m'allez dire que vous le mériterez. Levez-vous. Votre père est absent, vous avez tout le temps de vous expliquer. Vous avez vu le père Séraphin, vous savez enfin qui vous êtes et ce que vous pouvez attendre de moi, si votre projet n'est pas de me punir toute ma vie d'une faute que je n'ai déjà que trop expiée. Eh bien, mademoiselle, que me voulez-vous? Qu'avez-vous résolu ?»« Maman, lui répondis-je, je sais que je n'ai rien et que je ne dois prétendre à rien. Je suis bien éloignée d'ajouter à vos peines, de quelque nature qu'elles soient. Peut-être m'auriez-vous trouvée plus soumise à vos volontés si vous m'eussiez instruite plus tôt de quelques circonstances qu'il était difficile que je soupçonnasse. Mais enfin je sais, je me connais, et il ne me reste qu'à me conduire en conséquence de mon état. Je ne suis plus surprise des distinctions qu'on a mises entre mes sœurs et moi. J'en reconnais la justice, j'y souscris. Mais je suis toujours votre enfant. Vous m'avez portée dans votre sein, et j'espère que vous ne l'oublierez pas. Malheur à moi, ajouta-t-elle vivement, « si je ne vous avouais pas autant qu'il est en mon pouvoir. » Eh bien, maman, lui dis-je, rendez-moi vos bontés, rendez-moi votre présence, rendez-moi la tendresse de celui qui se croit mon père. Peu s'en faut, ajouta-t-elle, qu'il ne soit aussi certain de votre naissance que vous et moi. Je ne vous vois jamais à côté de lui sans entendre ses reproches. Il me les adresse par la dureté dont il en use avec vous. N'espérez point de lui les sentiments d'un père tendre. Et puis, vous l'avouerai-je, vous me rappelez une trahison, une ingratitude si odieuse de la part d'un autre que je n'en puis supporter l'idée. Cet homme se montre sans cesse entre vous et moi. Il me repousse, et la haine que je lui dois se répand sur vous. « Quoi ? » lui dis-je. « Ne puis-je espérer que vous me traitiez, vous et Monsieur Simonin, comme une étrangère, une inconnue que vous auriez recueillie par humanité ?» Nous ne le pouvons ni l'un ni l'autre. Ma fille, n'empoisonnez pas ma vie plus longtemps. Si vous n'aviez point de sœur, je sais ce que j'aurais à faire. Mais vous en avez deux, et elles ont l'une et l'autre une famille nombreuse. Il y a longtemps que la passion qui me soutenait s'est éteinte. La conscience a repris ses droits. Mais celui à qui je dois la vie, il n'est plus. Il est mort sans se ressouvenir de vous, et c'est le moindre de ses forfaits. » En cet endroit, sa figure s'altéra. Ses yeux s'allumèrent, l'indignation s'empara de son visage. Elle voulait parler, mais elle n'articulait plus. Le tremblement de ses lèvres l'en empêchait. Elle était assise. Elle pencha sa tête sur ses mains pour me dérober les mouvements violents qui se passaient en elle. Elle demeura quelque temps dans cet état, puis elle se leva, fit quelques tours dans la chambre sans mot dire. Elle contraignait ses larmes qui coulaient avec peine et elle disait « Le monstre, il n'a pas dépendu de lui qu'il ne vous ait étouffé dans mon sein par toutes les peines qu'il m'a causées. Mais Dieu nous a conservés l'une et l'autre pour que la mère expiât sa faute par l'enfant. Ma fille, vous n'avez rien et vous n'aurez jamais rien. Le peu que je puis faire pour vous, je le dérobe à vos sœurs. Voilà les suites d'une faiblesse. Cependant, j'espère n'avoir rien à me reprocher en mourant. J'aurai gagné votre dot par mon économie. Je n'abuse point de la facilité de mon époux, mais je mets tous les jours à part ce que j'obtiens de temps en temps de sa libéralité. J'ai vendu ce que j'avais de bijoux, et j'ai obtenu de lui de disposer à mon gré du prix qui m'en est revenu. J'aimais le jeu, je ne joue plus. J'aimais les spectacles, je m'en suis privée. J'aimais la compagnie, je vis retirée. J'aimais le faste, j'y ai renoncé. Si vous entrez en religion, comme c'est ma volonté et celle de M. Simonin, votre dot sera le fruit de ce que je prends sur moi tous les jours. Mais maman, lui dis-je, il vient encore ici quelques gens de bien. Peut-être s'en trouvera-t-il un qui, satisfait de ma personne, n'exigera pas même les épargnes que vous avez destinées à mon établissement. Il n'y faut plus penser. Votre éclat vous a perdu. Le mal est-il sans ressources ? Sans ressources. Mais si je ne trouve point un époux, est-il nécessaire que je m'enferme dans un couvent ? À moins que vous ne veuillez perpétuer ma douleur et mes remords jusqu'à ce que j'aie les yeux fermés. Il faut que j'y vienne. Vos sœurs, dans ce moment terrible, seront autour de mon lit. Voyez si je pourrais vous voir au milieu d'elles. Quel serait l'effet de votre présence dans ces derniers moments ? Ma fille, car vous l'êtes malgré moi, vos sœurs ont obtenu des lois un nom que vous tenez du crime. N'affligez pas une mère qui expire. Laissez-la descendre paisiblement au tombeau. Qu'elle puisse se dire à elle-même, lorsqu'elle sera sur le point de paraître devant le grand juge, qu'elle a réparé sa faute autant qu'il était en elle. Qu'elle puisse se flatter qu'après sa mort, vous ne porterez point le trouble dans la maison et que vous ne revendiquerez pas des droits que vous n'avez point. « Maman, lui dis-je, soyez tranquille là-dessus. Faites venir un homme de loi, qu'il dresse un acte de renonciation, et je souscrirai à tout ce qu'il vous plaira. »
Cela ne se peut. Un enfant ne se déshérite pas lui-même. C'est le châtiment d'un père et d'une mère justement irrités.
S'il plaisait à Dieu de m'appeler demain, demain il faudrait que j'en vinsse à cette extrémité et que je m'ouvrisse à mon mari afin de prendre de concert les mêmes mesures. Ne m'exposez point à une indiscrétion qui me rendrait odieuse à ses yeux et qui entraînerait des suites qui vous déshonoreraient.
Si vous me survivez, vous resterez sans nom, sans fortune et sans état.
Malheureuse, dites-moi ce que vous deviendrez. Quelles idées voulez-vous que j'emporte en mourant? Il faudra donc que je dise à votre père,
que lui dirai-je,
que vous n'êtes pas son enfant?
Ma fille, s'il ne fallait que se jeter à vos pieds pour obtenir de vous...
Mais vous ne sentez rien, vous avez l'âme inflexible de votre père.
En ce moment, M. Simonin entra. Il vit le désordre de sa femme. Il l'aimait, il était violent. Il s'arrêta tout court et, tournant sur moi des regards terribles, il me dit « Sortez !»
S'il eût été mon père, je ne lui aurais pas obéi, mais il ne l'était pas.
Il ajouta, en parlant au domestique qui m'éclairait, « Dites-lui qu'elle ne reparaisse plus !»
Je me renfermai dans ma petite prison. Je rêvais à ce que ma mère m'avait dit. Je me jetai à genoux. Je priai Dieu qu'il m'inspirât. Je priai longtemps. Je demeurai le visage collé contre terre. On n'invoque presque jamais la voix du ciel que quand on ne sait à quoi se résoudre. Et il est rare qu'alors elle ne nous conseille pas d'obéir. Ce fut le parti que je pris. On veut que je sois religieuse. Peut-être est-ce aussi la volonté de Dieu. Eh bien, je le serai, puisqu'il faut que je sois malheureuse, qu'importe où je le sois. Je recommandai à celle qui me servait de m'avertir quand mon père serait sorti. Dès le lendemain, je sollicitai un entretien avec ma mère. Elle me fit répondre qu'elle avait promis le contraire à M. Simonin, mais que je pouvais lui écrire avec un crayon qu'on me donna. J'écrivis donc sur un bout de papier. Ce fatal papier s'est retrouvé et l'on ne s'en est que trop bien servi contre moi. Maman, je suis fâchée de toutes les peines que je vous ai causées. Je vous en demande pardon. Mon dessein est de les finir. Ordonnez de moi tout ce qu'il vous plaira. Si c'est votre volonté que j'entre en religion, je souhaite que ce soit aussi celle de Dieu. La servante prit cet écrit et le porta à ma mère. Elle remonta un moment après et elle me dit avec transport « Mademoiselle, puisqu'il ne fallait qu'un mot pour faire le bonheur de votre père, de votre mère et le vôtre, pourquoi l'avoir différé si longtemps? Monsieur et madame ont un visage que je ne leur avais jamais vu depuis que je suis ici. Ils se querellaient sans cesse à votre sujet. Dieu merci, je ne verrai plus cela. » Tandis qu'elle me parlait, je pensais que je venais de signer mon arrêt de mort. Et ce pressentiment, monsieur, se vérifiera si vous m'abandonnez. Quelques jours se passèrent sans que j'entendisse parler de rien. Mais un matin, sur les 9 heures, ma porte s'ouvrit brusquement. C'était M. Simonin qui entrait en robe de chambre et en bonnet de nuit. Depuis que je savais qu'il n'était pas mon père, sa présence ne me causait que de l'effroi. Je me levai, je lui fis la révérence. Il me sembla que j'avais 2 cœurs. Je ne pouvais penser à ma mère sans m'attendrir, sans avoir envie de pleurer. Il n'en était pas ainsi de M. Simonin. Il est sûr qu'un père inspire une sorte de sentiment qu'on n'a pour personne au monde que lui. On ne sait pas cela sans s'être trouvé comme moi vis-à-vis de l'homme qui a porté longtemps et qui vient de perdre cet auguste caractère. Les autres l'ignoreront toujours. Si je passais de sa présence à celle de ma mère, il me semblait que j'étais une autre. Il me dit « Suzanne, reconnaissez-vous ce billet ?»«
Oui, monsieur. » »«
L'avez-vous écrit librement ?»«
Je ne saurais dire qu'oui. » »«
Êtes-vous du moins résolu à exécuter ce qu'il promet ?»«
Je le suis. » »«
N'avez-vous de prédilection pour aucun couvent ?
Non, ils me sont indifférents.
Il suffit.
Voilà ce que je répondis.
Mais malheureusement, cela ne fut point écrit. Pendant une quinzaine d'une entière ignorance de ce qui se passait, il me parut qu'on s'était adressé à différentes maisons religieuses et que le scandale de ma première démarche avait empêché qu'on ne me reçût postulante. On fut moins difficile à Longchamp, et cela, sans doute parce qu'on insinua que j'étais musicienne et que j'avais de la voix. On m'exagéra bien les difficultés qu'on avait eues et la grâce qu'on me faisait de m'accepter dans cette maison. On m'engagea même à écrire à la supérieure. Je ne sentais pas les suites de ce témoignage écrit qu'on exigeait. On craignait apparemment qu'un jour je ne revinsse contre mes vœux. On voulait avoir une attestation de ma propre main qu'ils avaient été libres. Sans ce motif, comment cette lettre, qui devait rester entre les mains de la supérieure, aurait-elle passé dans la suite entre les mains de mes beaux-frères ? Mais fermons vite les yeux là-dessus. Il me montre M. Simonin comme je ne veux pas le voir. Il n'est plus. Je fus conduite à Longchamp. Ce fut ma mère qui m'accompagna. Je ne demandai point à dire adieu à M. Simonin. J'avoue que la pensée ne m'en vint qu'en chemin. On m'attendait. J'étais annoncée, et par mon histoire, et par mes talents. On ne me dit rien de l'une, mais on fut très pressé de voir si l'acquisition qu'on faisait en valait la peine. Lorsqu'on se fut entretenu de beaucoup de choses indifférentes, car après ce qui m'était arrivé, vous pensez bien qu'on ne parla ni de Dieu, ni de vocation, ni des dangers du monde, ni de la douceur de la vie religieuse, et qu'on ne hasarda pas un mot des pieuses falaises dont on remplit ses premiers moments. La supérieure dit « Mademoiselle, vous savez la musique ? Vous chantez ? Nous avons un clavecin. Si vous vouliez, nous irions dans notre parloir. » J'avais l'âme serrée, mais ce n'était pas le moment de marquer de la répugnance. Ma mère passa, je la suivis. La supérieure ferma la marche avec quelques religieuses que la curiosité avait attirées. C'était le soir. On m'apporta des bougies. Je m'assis. Je me mis au clavecin. Je préludai longtemps, cherchant un morceau de musique dans ma tête, car j'en ai pleine, et n'en trouvai point. Cependant, la supérieure me pressa, et je chantai sans y entendre finesse, par habitude, parce que le morceau m'était familier. Tristes apprêts, pâles flambeaux, jours plus affreux que les ténèbres, etc. Je ne sais ce que cela produisit, mais on ne m'écouta pas longtemps. On m'interrompit par des éloges que je fus bien surprise d'avoir mérités si promptement et à si peu de frais. Ma mère me remit entre les mains de la supérieure, me donna sa main à baiser et s'en retourna. Me voilà donc dans une autre maison religieuse, et postulante, et avec toutes les apparences de postuler de mon plein gré. Mais vous, monsieur, qui connaissez jusqu'à ce moment tout ce qui s'est passé, qu'en pensez-vous ? La plupart de ces choses ne furent point alléguées lorsque je voulus revenir contre mes vœux. Les unes, parce que c'étaient des vérités destituées de preuves, les autres, parce qu'elles m'auraient rendu odieuse sans me servir. On aurait vu en moi qu'un enfant dénaturé qui flétrissait la mémoire de ses parents pour obtenir sa liberté. On avait la preuve de ce qui était contre moi. Ce qui était pour ne pouvait ni s'alléguer ni se prouver. Je ne voulus pas même qu'on insinuât au juge le soupçon de ma naissance. Quelques personnes étrangères aux lois me conseillèrent de mettre en cause le directeur de ma mère et le mien. Cela ne se pouvait. Et quand la chose aurait été possible, je ne l'aurais pas soufferte. Mais à propos, de peur que je ne l'oublie, et que l'envie de me servir ne vous empêche d'en faire la réflexion. Sauf votre meilleur avis, je crois qu'il faut taire que je sais la musique et que je touche du clavecin. Il n'en faudrait pas davantage pour me déceler. L'ostentation de ces talents ne va point avec l'obscurité et la sécurité que je cherche. Celles de mon état ne savent point ces choses. et il faut que je les ignore. Si je suis contrainte de m'expatrier, j'en ferai ma ressource. M'expatrier. Mais dites-moi pourquoi cette idée m'épouvante. C'est que je ne sais où aller. C'est que je suis jeune et sans expérience. C'est que je crains la misère, les hommes et le vice. C'est que j'ai toujours vécu renfermée et que si j'étais hors de Paris, je me croirais perdue dans le monde. Tout cela n'est peut-être pas vrai, mais c'est ce que je sens. Monsieur, que je ne sache pas où aller, ni que devenir, cela dépend de vous. Les supérieurs à Longchamp, ainsi que la plupart des maisons religieuses, changent de 3 ans en 3 ans. C'était une madame de Mauny qui entrait en charge lorsque je fus conduite dans la maison. Je ne puis vous en dire trop de bien. C'est pourtant sa bonté qui m'a perdue. C'était une femme de sens qui connaissait le cœur humain. Elle avait de l'indulgence, quoique personne n'en eût moins besoin. Nous étions toutes ses enfants. Elle ne voyait jamais que les fautes qu'elle ne pouvait s'empêcher d'apercevoir, ou dont l'importance ne lui permettait pas de fermer les yeux. J'en parle sans intérêt. J'ai fait mon devoir avec exactitude. Et elle me rendrait la justice que je n'en commis aucune dont elle eût à me punir, ou qu'elle eût à me pardonner. Si elle avait de la prédilection, elle lui était inspirée par le mérite. Après cela, je ne sais s'il convient de vous dire qu'elle m'aima tendrement, et que je ne fus pas des dernières entre ses favorites. Je sais que c'est un grand éloge que je me donne, plus grand que vous ne pouvez l'imaginer, ne l'ayant point connu. Le nom de favorite est celui que les autres donnent par envie au bien-aimé de la supérieure. Si j'avais quelques défauts à reprocher à Madame de Mauny, c'est que son goût pour la vertu, la piété, la franchise, la douceur, les talents, l'honnêteté, l'entraînait ouvertement. Et qu'elle n'ignorait pas que celle qui n'y pouvait prétendre n'en était que plus humiliée. Elle avait aussi le don, qui est peut-être plus commun en couvent que dans le monde, de discerner promptement les esprits. Il était rare qu'une religieuse qui ne lui plaisait pas d'abord lui plût jamais. Elle ne tarda pas à me prendre en gré, et j'eus tout d'abord la dernière confiance en elle. Malheur à celle dont elle ne la tirait pas sans effort. Il fallait qu'elle fût mauvaise, sans ressources, et qu'elle se l'avouasse. Elle m'entretint de mon aventure à Sainte-Marie. Je la lui racontai, sans déguisement, comme à vous. Je lui dis tout ce que je viens de vous écrire, et ce qui regardait ma naissance, et ce qui tenait à mes peines. Rien ne fut oublié. Elle me plaignit, me consola, me fit espérer un avenir plus doux. Cependant, le temps du postulat se passa. Celui de prendre l'habit arriva, et je le pris. Je fis mon noviciat sans dégoût. Je passe rapidement sur ces 2 années, parce qu'elles n'eurent rien de triste pour moi que le sentiment secret que je m'avançais pas à pas vers l'entrée d'un état pour lequel je n'étais point faite. Quelquefois, il se renouvelait avec force, mais aussitôt je recourais à ma bonne supérieure qui m'embrassait, qui développait mon âme, qui m'exposait fortement ses raisons et qui finissait toujours par me dire « Et les autres états n'ont-ils pas aussi leurs épines ? On ne sent que les siennes. Allons, mon enfant, mettons-nous à genoux et prions. » Alors elle se prosternait et priait haut, mais avec tant d'onction, d'éloquence, de douceur, d'élévation et de force, qu'on eût dit que l'Esprit de Dieu l'inspirait. Ses pensées, ses expressions, ses images pénétraient jusqu'au fond du cœur. D'abord, on l'écoutait. Peu à peu, on était entraîné. On s'unissait à elle. L'âme tressaillait et l'on partageait ses transports. Son dessein n'était pas de séduire, mais certainement c'est ce qu'elle faisait. On sortait de chez elle avec un cœur ardent. La joie et l'extase étaient peintes sur le visage. On versait des larmes si douces. C'était une impression qu'elle prenait elle-même, qu'elle gardait longtemps et qu'on conservait. Ce n'est pas à ma seule expérience que je m'en rapporte, c'est à celle de toutes les religieuses. Quelques-unes m'ont dit qu'elles sentaient naître en elles le besoin d'être consolées, comme celui d'un très grand plaisir. Et je crois qu'il ne m'a manqué qu'un peu plus d'habitude pour en venir là.